J'ai intitulé le message aujourd'hui « Le chemin de la vie » avec un texte non moins connu et très probablement, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que c'est le texte le plus connu de la Bible. Et on va voir ça ensemble. Assister à un baptême de quelqu'un apporte son lot de questions. On s'interroge tous. Pourquoi faire ça en 2026 ? Le baptême, c'était pas pour le siècle dernier ? Le christianisme, ça existe encore, ce truc-là ? Est-ce que tu as eu le choix ou est-ce qu'on t'a forcé ? Et puis, c'est qui, Jésus-Christ ? Toutes sortes de questions, et j'en ai sûrement omises certaines. Mais elles sont toutes légitimes et elles nécessitent du temps pour bien y répondre. Alors, je vous propose ce matin de voir en quelques minutes trois étapes d'une conversion. La première étape, c'est un message que l'on reçoit, que l'on écoute, que l'on entend ou que l'on lit. Et ce message, c'est le message de l'Évangile. La deuxième étape, c'est une réponse à ce message. Et cette réponse, c'est la foi. Et la troisième étape, c'est un changement, l'obéissance. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués des Bibles, c'est l'un des premiers livres que l'on trouve dans le Nouveau Testament, donc c'est-à-dire dans la deuxième partie de la Bible, plutôt d'ailleurs vers la fin, puisque le Nouveau Testament est beaucoup plus petit que l'Ancien. Matthieu, Marc, Luc et Jean, le quatrième des évangiles que nous trouvons. Et nous sommes donc au chapitre 3, et je vais commencer à partir du verset 16, et je pense que tout le monde ici, presque, sans le lire, pourrait me le réciter. Jean 3, 16 et 17, qui celui-ci est un peu moins connu. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Et on va d'abord faire une halte. Ici, on va d'abord s'arrêter. Le verset 16, comme je l'ai dit, est l'un des plus connus de la Bible, si ce n'est le plus connu. Et ce n'est pas pour rien, il y a une raison à cela. C'est parce qu'il comprend à lui tout seul, en une phrase, le message auquel nous croyons, l'Évangile. Et alors, on va regarder ensemble ce verset et on va le décortiquer. On constate d'abord que tout part d'un élément, tout part de l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Et c'est une information qui est importante, en fait, sur Dieu. Elle nous dit quelque chose de lui. Elle nous dit qu'il est amour et qu'il aime ses créatures. Il n'est donc pas, comme on peut le comprendre parfois, un Dieu coupé, il y a Dieu et puis il y a nous d'un autre côté, un Dieu qui reste dans son coin, qui ne se soucie pas de nous et qui ne s'intéresse pas à nous. Non. La Bible nous dit qu'il nous aime. C'est pas seulement « il nous connaît », il sait qu'on existe, c'est « il nous aime », c'est plus profond que ça. Il y a quelque chose de plus fort déjà dans la relation. Il est amour et il aime ses créatures. Poussé par cet amour pour nous, il fait quelque chose. Il dit qu'il a donné son Fils, son unique. En fait, c'est l'incarnation du Fils de Dieu en homme, venu sur terre pour remplir une mission bien précise. Celle d'être donné. Et on va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, être donné. Il y a quoi derrière ? En tout cas, il est donné pour que des personnes échappent à la perdition et qu'elles aient la vie éternelle. Ah, ça c'est une information importante qui éclaire le don. La notion de vie et de mort entre dans l'équation. Et là, tout de suite, ça doit nous interpeller, à minima nous intéresser, je suppose. Et le verset 17 vient en remettre une couche. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour sauver par lui. Alors, maintenant qu'on a pris un peu toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir les emboîter et regarder qu'est-ce que ça nous donne. La première pièce, c'est la pièce de la perdition. C'est la mauvaise nouvelle qui fait que l'évangile est une bonne nouvelle, euangelion en grec. La première pièce, c'est la perdition. En fait, tout part d'un constat de Dieu nous concernant, et c'est un constat qui n'est pas à notre avantage. Nous sommes perdus. Perdus et voués à une sanction. Cette sanction, c'est la mort. Mais pourquoi donc un Dieu créateur soi-disant bon nous aurait finalement menés à l'existence si c'est pour nous réserver une telle conclusion ? Ça n'a pas de sens ce que tu nous racontes. En fait, à l'origine, Dieu ne nous destinait pas à la perdition. La Bible dit même que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais alors, où est le problème ? Le problème, il n'est pas venu de Dieu. En fait, le problème, il est venu de l'homme. L'être humain a pris une décision, celle de se détourner de son Créateur pour vivre une vie d'émancipation. Ouais, Dieu, bon, c'est bien sympa, mais ce qui m'intéresse, c'est moi. Puis Dieu, puis on ne sait même pas s'il existe. En fait, on s'en fiche un peu, quoi. L'homme a fait le choix. Dieu, allez, ce qui m'intéresse, c'est moi, ma vie sur terre, etc. Et c'est là que les choses se sont corsées. En fait, en faisant ce choix, l'homme a désobéi à ce Créateur qui voulait avoir une relation avec lui. Dieu nous a créés dans ce but. Si vous posez la question de votre existence, la réponse est là. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, pour le glorifier. Mais si on ne le considère pas, alors on passe à côté de notre vocation, de notre but, même de notre existence. L'homme a voulu vivre sans Dieu, ce qui a entraîné de nombreux mauvais choix, des fautes. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, des péchés. Devant Dieu, l'homme n'est donc plus aussi bon qu'à l'origine. Il s'est rendu coupable, ce qui entraîne d'office la sanction prévue pour le péché. Et cette sanction, elle est sévère. Cette sanction, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle les êtres humains meurent. La seconde pièce du puzzle, celle-ci est un peu plus positive quand même, c'est l'amour de Dieu pour ces pécheurs dont on vient de parler. Dieu aurait pu se contenter de nous punir, point final. J'ai créé les hommes, ils m'ont désobéi, punition, fin de l'histoire. Mais le texte nous dit que Dieu est amour. Et dans son amour pour nous, il a décidé de ne pas nous laisser comme ça dans cette situation. Cette situation de livrer à une perdition certaine, mais aussi juste. La troisième pièce, c'est la manifestation de cet amour. Le plan qu'il a mis en place pour nous sauver et en même temps faire justice. Car Dieu est amour et Dieu est juste. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Le côté pile, le côté face. Dieu est à la fois amour et juste. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Il aurait pu jouer la carte de « Ah, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont eu de la chance. » Mais Dieu n'est pas menteur. Il voit toute chose. Et il doit faire justice puisqu'il est juste. Alors, comment va-t-il faire pour à la fois nous sauver parce qu'il nous aime et à la fois faire justice parce qu'il est juste ? En fait, compte tenu de notre situation de pécheur et de notre statut légal de condamné d'office, il fallait alors que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. J'ai dit tout à l'heure que Dieu était amour. Là, on en a la preuve. Dieu lui-même est venu payer à notre place. C'est là la preuve d'un amour inconditionnel. Il s'est incarné, il a pris notre condition humaine, il a vécu la vie de parfaite obéissance, c'est-à-dire sans se détourner du Père, que nous aurions dû mener, et il est mort à notre place en subissant notre condamnation. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un de la même condition, donc un être humain, pour ça qu'il s'est fait homme, mais un être humain qui pouvait donner sa vie pour les autres, parce que lui, il était sans péché. Un autre être humain ne pouvait pas le faire. Vu que nous sommes tous pécheurs, si nous mourons, si nous subissons une condamnation, c'est pour nos propres fautes, pas pour celles de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, qui ne devait pas la subir, l'a subie alors non pour lui-même, mais pour d'autres. Si Jésus avait été pécheur, il serait mort pour lui-même et il n'aurait pas pu satisfaire à la justice de Dieu. Enfin, quatrième et dernière pièce du puzzle, c'est le bénéfice de ce sacrifice pour nous, la vie éternelle. En fait, c'est là une déduction logique. Si nous sommes condamnés à la perdition à cause de nos péchés, mais que quelqu'un paye pour nous et subit notre sanction, c'est-à-dire la mort, à notre place, alors justice a été faite. Et nous ne sommes plus sous le coup de la condamnation. Notre statut légal change alors de condamné à justifié. Et le plus fort dans tout ça, Oriane l'a bien souligné dans son témoignage, le plus fort dans tout ça, c'est qu'on n'a rien mérité. Est-ce que l'un de nous était meilleur que les autres ? Puis lui, bon, il a peut-être une chance de s'en sortir, alors rien dans la Bible ne le dit. Au contraire, la Bible dit « nous étions tous coupables ». Il n'y a pas de juste, pas même un seul, ça c'est Romains 3. « Tous coupables, tous pécheurs, tous ennemis de Dieu, donc tous condamnés. » Et pourtant, à cause de son amour, Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. C'est un don, c'est un cadeau qu'il offre. C'est ce qu'on appelle la grâce, une grâce qu'il accorde. Alors si vous êtes attentif, j'ai oublié un détail, volontairement. Un élément du verset 16, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, j'en ai pas parlé, c'est fait exprès, car l'évangile dont on vient de parler nécessite une réponse de notre part. On vient de parler du message, et maintenant la réponse. Verset 18. Celui qui met sa confiance en lui, donc en Jésus, n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Le verset 16 définit deux catégories de personnes, celles qui échappent à la perdition et celles qui sont condamnées. Dans quelle catégorie tu te situes ? Est-ce que tu fais partie de ceux qui échappent à la perdition ? Ou est-ce que tu fais encore partie de ceux qui sont condamnés ? C'est une vraie question qu'il faut se poser là. La différence se fait sur un élément, la foi. En grec, pistis, qui signifie croire que c'est vrai, que ça a existé, mais pas seulement. Ça signifie aussi avoir confiance, et plus fort que ça, et être fidèle. Avoir confiance et être fidèle. En fait, c'est la condition pour être au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Croire en lui, croire en sa personne, c'est-à-dire croire qu'il est le Fils de Dieu, croire en son œuvre salvatrice, c'est-à-dire ce qu'il a fait, pas seulement que c'est un personnage historique qui a vraiment existé, qui est mort pour ses idées, non. Il l'a fait pour moi, par amour, pour me donner la vie. Et enfin, placer sa confiance en lui et lui être fidèle. C'est ça, avoir la foi. Alors, je dis souvent aux personnes qui font la préparation au baptême qu'il y a croire et croire. On peut croire que c'est vrai, Jésus-Christ a vraiment existé, qu'il est éventuellement le Fils de Dieu, puis qu'il est mort pour les péchés de certains, et puis ça s'arrête là. Mais ça, c'est avoir une foi qui ne produit rien. Un peu comme un fait historique qui ne change pas grand-chose. Et puis, il y a croire que c'est la vérité et que cette vérité implique un changement radical. Un changement radical. Et c'est le troisième élément. Un changement. Les versets 19 à 21. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Au début de son évangile, l'apôtre Jean présente le Christ comme la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain par la révélation qu'elle représente. Cette révélation dont nous avons besoin pour répondre par la foi au message de l'évangile. Si l'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre pour vivre la vie que nous aurions dû mener, c'est-à-dire la vie d'obéissance que nous sommes incapables de mener, qu'il est venu pour mourir à notre place et qu'il est ressuscité pour notre justification, on l'a fêté avec Pâques, alors ça change forcément des changes dans notre vie, dans notre cœur. On ne peut pas rester insensible à cela, ou alors ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment. Si Dieu a été capable d'un tel acte d'amour, alors ça implique de notre part au moins du respect, de la révérence, de la crainte et de l'amour en retour. Si Jésus-Christ a subi ma condamnation à ma place, alors ça implique de la reconnaissance, oui, mais aussi de l'obéissance. Car si mes péchés lui ont coûté la vie, si ça a coûté aussi cher, alors je ne peux pas continuer de vivre comme s'il n'avait rien fait pour moi. Désormais, je dois vivre en considérant Dieu et son œuvre dans ma vie quotidienne, en lui manifestant mon amour, ma crainte, mon respect par l'obéissance. C'est-à-dire en me conformant non plus à mes propres désirs humains, mais à sa volonté, la sienne et non la mienne. Voici ce qui constitue un témoignage lumineux et visible pour tous, le changement radical d'une vie en accord avec la foi en Jésus-Christ. En conclusion, une conversion authentique peut se définir en trois étapes. Tout d'abord, le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle dans un monde livré à lui-même. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour des pécheurs. Ensuite, la réponse en retour à ce message, c'est la réponse de la foi. Reconnaissance et confiance en Jésus-Christ pour nous sauver. Je crois qu'il m'a sauvé. Et donc, de fait, je suis au bénéfice de la vie éternelle. Ça, c'est un grand changement avec toutes les autres religions. Dans toutes les religions, on est obligé d'accomplir certaines œuvres, certains rites, pour obtenir les faveurs de la divinité et peut-être, avec de la chance, si j'ai obtenu assez de points, il m'accordera le salut. Le christianisme, c'est l'inverse. En fait, Dieu a tout fait à ma place et c'est grâce à ça que je suis sauvé. Non pas par mes œuvres à moi personnelles, mais parce que c'est lui qui a fait à ma place. Et ça, souvent, c'est un aspect qui est difficile à accepter parce qu'on ne comprend pas que Dieu peut nous donner quelque chose simplement parce qu'il nous aime et qu'on n'ait rien à faire en retour. Alors, rien à faire, vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas afin d'obtenir le salut, mais on obéit parce que nous l'avons obtenu. C'est un fait. C'est pour ça que je rejoins Lorenzo quand il dit « Je suis convaincu que je ne peux pas perdre le salut. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que mon salut ne dépend pas de moi. Il dépend de celui qui est parfait et qui ne peut pas faire d'erreur. Par conséquent, il est sûr. Il n'y a pas d'échec possible. Il est accepté. Enfin, le changement radical implique, qu'implique la foi. C'est celui de se détourner de ses péchés pour vivre en conformité avec ce que Dieu veut pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Notre bien. Est-ce que ce n'est pas à cela que tout être humain aspire ? Au bonheur, à la joie, à la paix ? La clé, elle est là. La clé, elle est là. Alors voilà ce qu'implique une conversion au christianisme. Déjà à l'époque de Jean, il y a 2000 ans, mais encore de nos jours, en 2026. Une réponse sincère à un changement radical et un changement radical au message synthétisé en un seul verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.